Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Les peuples Kamaraygal de la nation Guringai ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit de Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Radio SBS. Avec vous aujourd'hui, Grégory Pless, j'ai le plaisir de vous accompagner pendant une heure d'émission en français. Au programme ce 17 janvier 2026, on va comme tous les samedis se plonger dans les archives et en l'occurrence évoquer le vote en France en 1975 de la loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse. On fera aussi un tour au Dakar où se trouve notre collègue Christophe Mallet. On va ensuite s'intéresser à l'histoire de l'Australie et plus particulièrement à l'ancien Premier ministre Robert Menzies. Et puis enfin, on échangera avec Emma Rolando, une Française qui dirige une chorale à Melbourne. Alors j'espère que vous êtes bien installés, on y va! Et c'est la première de cette année 2026. Nous retrouvons aujourd'hui notre rubrique habituelle du samedi. C'est arrivé un, et en l'occurrence, c'est arrivé le 17 janvier 1975. La loi Veil, adoptée par la députée du même nom, est entrée en vigueur. Elle était prévue initialement pour une période de 5 ans et elle a été tout récemment constitutionnalisée. Je vous propose d'écouter les explications de Iléana Guillauchon.
Croyez bien que c'est avec un profond sentiment d'humilité devant la difficulté du problème, comme devant l'ampleur des résonances qu'il suscite au plus intime de chacun des Françaises et des Français, et en pleine conscience de la gravité des responsabilités que nous allons assumer ensemble.
Ces paroles résonnent encore aujourd'hui. Elles ont été prononcées par Simone Veil le 26 novembre 1974 à l'Assemblée nationale lors d'un discours devenu historique. Le Sénat adopte en première lecture un texte qui vise à inscrire dans la Constitution la liberté pour les femmes de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Ça s'est passé le 17 janvier 1975, la loi Veil entre officiellement en vigueur, l'avortement est dépénalisé, chaque Française peut désormais y avoir recours. Une avancée majeure en faveur du droit des femmes et de santé publique, annoncée au journal de 20h, et voici son histoire. Aujourd'hui, l'interruption volontaire de grossesse est autorisée. Mais on l'oublie parfois que ce droit n'existe que depuis une cinquantaine d'années. Avant ça, les femmes qui ne voulaient pas poursuivre leur grossesse n'avaient souvent qu'une seule option, se tourner vers des pratiques clandestines, parfois très rudimentaires, qui mettaient leur santé et souvent même leur vie en danger. En 1967, un premier changement apparaît avec la loi Neuwirth. Elle autorise la pilule contraceptive en France.
Les temps sont venus de leur donner le droit de maîtriser leur fécondité, parce que c'est leur fécondité.
Sauf qu'à cette période, la contraception reste toujours difficile d'accès. Et avorter, aider quelqu'un à le faire ou y avoir recours, est alors puni par la loi. Les sanctions sont lourdes, de la prison et une amende. À partir de l'été 1970, le mouvement de libération des femmes prend de l'ampleur. Il se développe, s'étend et multiplie les actions choc. L'objectif est clair, interpeller l'opinion publique et attirer de nouvelles militantes.
Les militantes féministes de 1971 réclament en toute priorité une sexualité heureuse et déchargée des angoissants problèmes matériels et elles revendiquent la contraception libre et gratuite et la liberté de l'avortement.
À l'automne 1970, un groupe dédié à la question de l'avortement se forme. Il rassemble une quinzaine de femmes Rapidement, le groupe est contacté par des journalistes. Une idée s'impose, publier un manifeste, mais à une condition, qu'il soit signé par des femmes connues pour rendre le message visible et lui donner un véritable impact. Le 5 avril 1971, le manifeste, appelé Manifeste des 343, est publié. Les premières figures de renom viennent surtout du monde artistique et littéraire, des femmes engagées. Parmi elles, Simone de Beauvoir, qui réclamait déjà la liberté de l'avortement dans le deuxième sexe dès 1949. On retrouve aussi Gisèle Halimi, Catherine Deneuve ou encore Marguerite Duras. Le manifeste reste en soi un mode d'action politique classique. Mais ce qui est totalement inédit, c'est que les signataires soient exclusivement des femmes. Et ça change toute la donne. Il ne s'agit plus seulement de savoir s'il faut légaliser l'avortement. La vraie question devient alors, est-ce aux femmes de décider pour elles-mêmes ? Les avis dans la société sont très partagés. De profonds débats idéologiques opposent alors les anti-IVG aux pro-IVG. Seulement voilà, les avortements clandestins continuent de se pratiquer dans un climat tabou. En 72, le procès de Bobigny marque les esprits et certains praticiens affichent ouvertement leur soutien à la légalisation de l'avortement et publient même un manifeste dans lequel ils déclarent le pratiquer.
74, les politiques essentiellement des hommes prennent enfin la mesure de l'urgence. 300 femmes meurent chaque année d'avortements clandestins. Contre certains ténors de son camp, Simone Veil se bat et elle gagne avec plus de difficultés que si elle avait été un homme.
C'est donc dans ce contexte que s'inscrit le projet de loi en faveur de l'avortement porté par Simone Veil. Elle est nommée ministre de la Santé en 1974 et elle est chargée de le préparer. Le débat en première lecture sur le projet de loi autorisant l'IVG s'ouvre à l'Assemblée nationale le 26 novembre 1974 où elle livre un discours marquant.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame.
La ministre décrit la détresse des femmes. Elle parle du rejet, de l'opprobre, de la honte et de la solitude qu'elles subissent sans écoute et sans aide. Elle montre qu'il ne s'agit pas d'une histoire privée, mais d'une question qui relève de l'intérêt de la nation. D'autres sujets sont abordés, parlant de contraception, de solutions alternatives et même de politique familiale. Par la suite, les débats parlementaires sont longs et houleux. Simone Veil est d'ailleurs revenue sur ce moment difficile.
Sur le plan personnel, certains moments des débats parlementaires ont été difficiles. Même si je me suis rendu compte que certains propos étaient dus à la passion, et une passion parfois justifiée.
Le texte est définitivement adopté le 20 décembre et est officiellement promulgué le 17 janvier 1975. Connue sous le nom de loi Veil, elle est votée pour une période de 5 ans seulement. Elle permet à une femme de recourir à l'IVG dans un certain délai, sur demande à un médecin. La loi laisse toutefois la possibilité à tout médecin ou à tout établissement privé de refuser d'intervenir. Et si l'IVG n'est pas automatiquement remboursé par la Sécurité sociale, une prise en charge reste possible sur demande grâce à l'aide médicale. Une vraie avancée. D'autres modifications et ajouts dans la loi suivront pour l'élargissement et l'amélioration du cadre de la prise en charge. Parmi elles, celle du 8 mars 2024 qui marque un tournant.
J'ai l'honneur de requérir qu'il vous plaise de bien vouloir apposer le grand sceau de la République française sur la loi constitutionnelle du 8 mars 2024 relative à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse.
La France devient alors le premier pays au monde à inscrire la liberté de recourir à l'IVG directement dans sa constitution. Un droit fragile, conquis pas à pas et hérité d'un combat collectif.
Tout de suite, on va se tourner vers le Dakar que couvre actuellement notre collègue Christophe Mallet. Et on va d'abord écouter une interview avec les frères Campos, deux Français qui participent à la course cette année.
Merci d'écouter SBS French. Rendez-vous sur notre site sbs.com.au/french.
Bon, les frères Campos, là, à la journée de repos, vous nous aviez dit que l'objectif c'était d'aller au minimum 4 jours. Allez, là, allez, c'est une belle surprise de vous trouver ici.
Ouais, faut être un peu dans la confiance, mais oui, disons que 3-4 jours c'était. Ça aurait été. Voilà, c'était. Et là, c'est mieux, c'est que mieux.
Bon, alors, c'est cette semaine de Dakar pour vous, il s'est passé quoi ?
Oh, bah, tous les jours, une petite avarie quand même, hein. Ah oui, le câble d'accélérateur, premier jour, réparation sur la piste, une bonne heure. Le deuxième jour, je crois bien, le bouchon de vidange, l'huile, etc. Le lendemain, le support de pont qui tient la caisse, boulon cassé tout de suite en sortant du bivouac. Donc avant-hier, rien, je crois pas. On s'est embourbé du trial. Et hier, une petite panne d'allumage, mais rien du tout.
Mais cette boîte de vitesse que vous aviez dit, qui chauffait.
Bah, elle chauffe.
Tiens, pour l'instant, c'était bien construit à l'époque quand même.
Ouais, c'était pas mal. Bon, là, on a fait la vidange, on a remis déjà de l'huile il y a 2 jours. Et puis là, on a refait la vidange parce que lorsque l'on est dans les dunes, etc., enfin, on peut pousser la première en 4 roues motrices pendant 3 minutes à fond, et la boîte, elle souffre, donc forcément, ça ferraille un petit peu dedans, même s'il y a de l'huile, hein, et ça monte en température, et donc, on la préserve en vidangeant l'huile, et là, on nous en a donné les gens de Red Bull par le biais de Ford. Toyota,
ouais.
Faire de Bourg.
Ouais, bon, voilà.
Mais ça, c'est les beaux moments du Dakar. Ça vous fait chaud au cœur, ça vous surprend. Comment vous voyez ce Dakar de l'intérieur?
Rien d'étonnant. Vous savez, demain, on est oublié aussi. Il n'y a pas de secret. Enfin, on n'est pas. Voilà. Non, il y a eu. Monsieur X, moi, c'était un monsieur.
Jackie X, hein.
Oui, voilà, oui. Et c'était hier. Il nous attendait à l'arrivée parce que il a entendu parler de nous par votre biais aussi. Et puis.
Ça vous a fait plaisir, ça?
Bah, c'est bien une personne que on en a tous rencontré, des gens. Et c'est bien une personne qui a quand même un cumul, un palmarès dans la motocyclette, dans le rallye raid, la Formule 1, le sport proto. Il y en a plus des comme ça. Donc, le monsieur qui nous dit que notre histoire le touche, etc., et qu'il a parlé de notre famille, nous c'est important pour nous, mais c'est tout, ça touche personne d'autre. C'est bien ça. C'est un instant du moment.
Et on peut vous souhaiter quoi pour la fin de ce Dakar là?
La journée de demain déjà.
Ça commence comme ça?
Oui, déjà faire hier, faire l'étape entière qui est encore une grosse étape, faire l'étape entière et puis continuer ensuite. Et là, il est vrai que, je ne sais pas si tu en as parlé, mais maintenant qu'on a passé la moitié, on se dit peut-être, éventuellement, on pourrait peut-être aller au bout.
Donc, ça serait bien.
Ce serait bien.
Ce serait le Graal.
Mais c'est quelque chose, vous focalisez sur la journée de demain, la journée d'après?
Bah oui, c'est journée par journée, parce que on ne sait jamais. Tous les jours, il nous arrive quelque chose, donc on ne peut pas savoir.
Voilà. Bon. Pour l'instant, on arrive à réparer. La fatigue, elle est là, mais ça a l'air d'aller. Donc pour l'instant, on a encore un petit peu la tête sur les épaules. Mais on sait qu'à tout moment, ça peut s'arrêter. Donc voilà, on le sait.
Eh bien, bon courage. Et on sera un plaisir de se reparler à Yambou à la fin de ce Dakar.
C'est possible.
Eh oui, ouais.
Ok, merci bien. Allez, bonne soirée.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Voilà, et on va rester sur le Dakar encore quelques minutes pour se tourner cette fois vers une véritable figure de cette compétition. Il s'agit du photographe Eric Varjoliou qui l'a couverte pendant des décennies.
Eh ben, on est avec Eric Varjoliou. On s'était déjà parlé, Eric, l'année dernière. Je ne pensais pas vous revoir cette année sur un Dakar. Alors, même si vous ne le faites pas officiellement, Vous êtes quand même là sur un 48e Dakar, officiellement.
Oui, enfin, je suis là, je suis juste témoin. J'ai même pas apporté un appareil photo. J'ai des gens qui m'ont succédé, que je connais bien. Je ne vais pas dire que je les ai formés, mais ils ont été à côté de moi pendant des années. Ils sont prêts à prendre la relève. Moi, j'en ai fait, je ne sais plus, 48. J'ai fait les Abidjanis, j'ai fait aussi beaucoup d'autres choses. J'ai 75 ans, hein, donc à un moment, faut laisser la place.
Vous ne les faites pas, hein?
Oui, c'est gentil, mais à un moment, j'avais pas vraiment envie, mais je sentais qu'il fallait que j'arrête et puis qu'il fallait que ça continue. Il faut du sang nouveau quand même. C'est vrai qu'ils maîtrisent certains aspects techniques mieux que moi, ça plus le reste. Et ils ont été formés sur le terrain et ils seront très bien. J'ai vu leur travail, il n'y a rien à dire.
Alors, pour résumer une vie en quelques minutes, mais votre travail au Dakar, il a largement évolué au gré des années. Vous avez évolué avec cette épreuve. Parlez-nous un petit peu de tout ce que vous avez pu faire sur le Dakar. Et on n'a que quelques minutes.
Hein. Oui, oui. Non, j'ai tout fait. J'étais dès le début. J'ai travaillé avec les outils qu'on avait à l'époque et qui étaient des boîtiers argentiques avec des films 36 vues qu'on changeait dès qu'ils étaient finis. C'était d'ailleurs un des problèmes. On faisait du noir et blanc et de la couleur. Il fallait absolument pouvoir rapatrier les films, et souvent c'était à l'occasion d'évacuations sanitaires, donc c'était étrange. On jetait le sac de photos quasiment sur le ventre du mec qui était sur la civière, tu vois. Mais bon, c'était comme ça, et on est arrivé à envoyer deux envois à Paris, au bureau. Ils attendaient tous les pellicules. Ce qu'on redoutait, c'était qu'il y a eu un problème technique sur les boîtiers, parce que aujourd'hui on est dans un confort absolu de travail. On est en live, on regarde ce qu'on fait, ça va, on passe à autre chose, ça va pas, on recommence. Avant, on se ceinture, bretelle et tout, on faisait 10 fois le même truc en espérant qu'elle soit réussie. Il n'y avait pas les mises au point automatiques, il n'y avait rien de cette technologie, et on ne voyait pas ce qu'on avait fait. On travaillait en aveugle. Aujourd'hui, on travaille en live, et c'est un confort de travail qui en même temps participe à ce qu'on soit plus créatif, parce qu'on va oser des choses qu'on n'aurait jamais osé, tu vois, des effets de lumière, des téléobjectifs, des trucs. Donc on a énormément progressé, et moi je trouve que c'est formidable qu'on profite de ça. Mais qu'est-ce qui était comme il y a 50 ans? Il n'y a plus rien qui était comme il y a 50 ans.
Ouais, absolument, c'est clair. Aujourd'hui, c'est une date un peu spécifique. C'est les 40 ans du décès, de l'accident d'hélicoptère qui a pris la vie de 5 personnes, notamment Thierry Sabine et Daniel Balavoine. C'est les deux noms dont on se rappelle. Vous y étiez. Est-ce que je peux me permettre de vous demander comment vous avez vécu ça, ce moment, et surtout cette journée d'après, la continuité de ce Dakar après?
Alors, moi, oui, je m'en souviens. Enfin, j'étais dans la spéciale. J'étais parti le matin ou la nuit, je me souviens plus, comme on fait toujours. C'est-à-dire qu'on partait sur la piste avant tous les concurrents, puisque quand ils allaient être eux sur la piste, il fallait qu'on soit en place. Comme ils roulaient beaucoup plus vite, il fallait déjà qu'on soit en place pour prendre les photos. Et en fait, j'étais précisément au Mali, dans les falaises de Bandiagara, qui est un endroit assez typique, où on attendait que les procureurs viennent. Puis à l'époque, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de téléphone, on n'avait rien, on était isolés, hein, complètement. Et donc on est là, on sait à peu près quelle heure les voitures vont passer. Rien, il ne se passe rien, moto, tout ça, rien. Là, on commence à se poser des questions. Et au bout d'un moment, il y a une voiture médicale qui passe, qui s'arrête et qui nous dit il y a eu un accident, le rallye est arrêté. Et alors je ne saurais pas te dire s'ils nous disent un accident de moto, d'hélicoptère, pardon, et Thierry est mort. Je vais voir, mais gros accident. De toute façon, il y avait un mot de code qui existait, c'était le pire est arrivé. Quand cette phrase elle serait prononcée, on savait que c'était vraisemblablement un accident mortel qui aurait touché la direction de course, en l'occurrence Thierry Sabine. Donc, alors au fur et à mesure, alors donc on fait demi-tour, on rentre, le rallye est suspendu, et on repart en continuant, en se posant des questions. Thierry plus là, bon, c'est terrible, on connaît pas tous les détails, tu vois. Et évidemment, qu'est-ce qu'on va faire demain? On sait pas, on
n'était pas dans les secrets de l'organisation. Donc on rejoint le bivouac et suivant. Et là, on apprend que le rallye va continuer. C'était Patrick Verdois à l'époque, qui était le numéro 2 de Thierry Sabine, qui connaissait et était préparé à reprendre. Alors, reprendre, c'est préparer, c'est facile. Est-ce qu'il va être capable de le faire? Parce que c'est pas évident. Et donc, alors, te dire si on est reparti le lendemain ou s'il y a eu une journée de césure, je me souviens pas. Mais le rallye est parti et a continué. Et c'était comme ça. C'était prévu et c'était prudent que ça soit prévu.
C'est un moment qui vous a hanté un petit peu. Vous y avez repensé pendant longtemps, ce moment où vous l'avez appris et l'impact que ça a eu, on en parlera dans quelques instants, sur le rallye jusqu'à aujourd'hui.
Non, je peux pas dire que ça a eu un impact. Je veux dire, malheureusement, à l'époque, l'accident définitif, il faisait partie du rallye, si tu veux. C'est triste à dire, mais c'était comme ça. Moi, je fréquentais le milieu auto et moto. Malheureusement, j'étais témoin de nombreux accidents. Et la vie continue, le sport continue. C'était le souhait. Et moi, j'ai beaucoup fréquenté les pilotes moto. Beaucoup sont décédés à l'époque. On avait le même âge, on était ensemble. Et j'en ai vu un qui est survivant il n'y a pas longtemps. Il me dit, on nous traitait de fous, qu'on voulait mourir. Mais il me dit, mais nous, on était passionnés, on ne voulait pas mourir. Mais bon, ça faisait partie du jeu. C'était dans le contrat. Donc, il dit, c'est regrettable, mais... Et je me souviens d'avoir parlé avec Patrick Ponce, qui était un grand pilote français. On était assez copains. Je l'avais connu quand il commençait en Coupe Kawasaki. On a parlé de la mort. Un jour, il m'a dit, mais écoute, si ça doit arriver, ça arrive. Je m'éclate tellement, je suis tellement heureux. Ça fait partie du contrat. Donc, la mort, malheureusement, était présente dans l'événement. Et tu peux pas... rester sur la mort de Thierry Sabine. On est dans la course, on fait comme les autres, on continue, puis tu es un directeur de course et puis tu reprends tes habitudes et puis ça t'empêche pas d'avoir des pensées, des regrets ou pas, etc. Mais ça continue, ça c'est la course automobile. Hein.
Il y a l'ADN de Thierry Sabine quand même qui est encore vivant aujourd'hui dans ce qu'il avait pu faire dans un Dakar qui est complètement différent. Vous l'avez dit, la technologie est différente, peut-être l'esprit même de course est différent. Les coureurs vont beaucoup plus vite, beaucoup peut-être moins un peu sur la réserve comme à l'époque. Mais on ressent quand même un peu encore une ADN quelque part de Thierry Sabine dans ce rallye.
Le Dakar, c'est une épreuve difficile. Quand on est sur le terrain, on sait ce que c'est. C'est des moments, et ça, la difficulté du terrain, elle ne change pas, hein, elle est toujours là. Alors, les véhicules sont de plus en plus performants, les outils de navigation. Moi-même, je partais avec un roadbook, il y avait 100 pages avec des dessins, une boussole que j'achetais au vieux campeur à 50 balles, et puis on roulait comme on pouvait. Maintenant, ils ont des outils qui facilitent, mais quand tu es dedans... Il faut les faire, les 500 km à se faire tabasser et à se perdre, etc. Il faut les faire. Donc, tu ne peux pas comparer, mais pour moi, ça reste une épreuve difficile. Peut-être moins, parce qu'effectivement, on a des outils, mais c'est un engagement. Hein. 15 jours de course, les mecs, ils y vont. Alors, l'esprit du Dakar, la structure du Dakar, le profil du Dakar existe toujours. Bien sûr, c'est peut-être... Enfin, je ne peux pas juger sur un ordre de valeur, si tu veux.
Et juste pour conclure cet entretien, 49 pour vous, ça donne quand même vachement envie d'être là pour la 50e ou pas?
Oui, enfin, j'ai presque fermé le dossier, si tu veux, parce que je te dis, il est bien repris, il va continuer.
Oui, mais le passionné en vous, oui.
Bah, c'est pour ça que je suis venu 3-4 jours, si tu veux, pour... ça me manque un peu, c'est vrai. Mais je vais arriver à m'en passer. Mais même, j'ai pas besoin de m'en passer. Si j'ai envie de revenir, je reviendrai. Je vais faire comme j'ai envie. J'ai eu cette liberté toute ma vie. C'est un merveille. Si je vais encore continuer.
C'est un plaisir de vous reparler encore. Merci.
Moi aussi.
Tout de suite, nous retrouvons un nouvel épisode de notre série sur l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, troisième partie consacrée à l'ancien Premier ministre Robert Menzies. Nous l'avions quitté dans le précédent en pleine Deuxième Guerre mondiale. On s'intéresse désormais à comment cet homme va reconquérir le pouvoir, et cette fois pour de très longues années. « Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, troisième partie consacrée à l'ancien Premier ministre Robert Menzies. Nous l'avions quitté alors qu'il était évincé du pouvoir en pleine Seconde Guerre mondiale. On va voir dans celui-ci comment il a réussi à reconquérir l'opinion et surtout le pouvoir qu'il va ensuite conserver pendant plus de 15 ans. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Alors effectivement, tout ça, on en a déjà parlé dans un épisode précédent, donc sur John Curtin. Donc Robert Menzies, il perd sa majorité et le pouvoir en 1941. Et une fois dans l'opposition, en fait, il va innover. À l'époque, personne n'a jamais fait ça, mais il va se mettre à parler aux Australiens de façon très régulière à travers la radio. C'est un moyen qui va lui permettre de regagner un petit peu en popularité. Et puis, dans le même temps, on l'a dit, alors initialement, au début de sa carrière politique, il faisait partie de l'United Australian Party, donc une sorte de coalition de divers courants de droite. Et c'est à cette même période, alors qu'il est dans l'opposition, qu'il va créer le Parti libéral, celui qu'on connaît encore aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons parler de ça? Donc, nouvelle méthode de communication et l'émergence donc, d'un nouveau parti qui, 80 ans plus tard, est toujours là.
Oui, alors là, on reprend la métaphore. Hein, Kiev qui fait un discours à la radio pour s'adresser directement aux Français, un certain Charles de Gaulle, le 18 juin 40. Menzies, effectivement, est assez innovant là-dessus, mais c'est dans l'air du temps. Voir que il vient de perdre David Curtin, qui est un ancien journaliste. Et Curtin est très, très bon avec la presse. Et donc, un moyen de bypass le contrôle de la presse par un Premier ministre plutôt doué, c'est d'essayer de parler directement aux gens. Et en fait, la radio, les médias de masse sont un des grands outils des totalitarismes, hein, que ce soit en Allemagne ou en Union soviétique ou chez Mussolini en Italie. Et donc, effectivement, c'est un peu nouveau dans le paysage australien, mais dans le club des grands hommes politiques de l'époque, ils commencent très clairement à comprendre qu'il y a un intérêt à aller directement au contact des gens, non pas en faisant des meetings ici et là, parce que ça coûte de l'argent, il faut se déplacer, c'est compliqué, c'est long, pendant la guerre, il y a des restrictions, mais via les médias de masse. Alors beaucoup de gens sont lettrés, savent lire, et d'autres qui ne le seraient pas ont accès de plus en plus facilement à des postes de radio qui sont, de moins en moins chers et qui sont souvent écoutés en communauté. Et donc, c'est un moyen, en fait, au lieu de faire un discours dans une ville, vous pouvez faire votre discours et être entendu un peu partout. Donc, la radio, les ondes, ça fonctionne très bien. Et Menzies, effectivement, devient un peu la conversation au coin du feu de Giscard. Il s'intègre dans les foyers australiens, sa voix devient une voix qui est connue des Australiens. Vraiment, sa voix est probablement une des premières, peut-être celle de Billy Hughes un peu avant, qui avait expérimenté là-dedans. Mais pour le coup, toute l'Australie des années 50, 60 connaît la voix de Menzies. Vous demandez à des personnes qui sont âgées aujourd'hui dans la rue, vous leur faites écouter la voix, ils la reconnaissent immédiatement, un peu comme nous, on reconnaît celle de Gaulle, justement. Ça fonctionne bien pour lui parce que il est dans l'opposition, mais il a des ambitions. C'est pas parce qu'il a été défait qu'il s'arrête. Au contraire, il redouble d'efforts pour pouvoir reconquérir le pouvoir parce que pour lui, la gauche, il n'y a rien de pire. Donc, le fait d'avoir non seulement laissé tomber son parti en perdant le poste et en perdant le gouvernement et qu'il y ait la gauche et que ce soit la guerre, tout ça, en fait, c'est vraiment le moment pour se rebrousser les manches. Et alors, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, écoutez, il faut se reprendre. Parce que là, très clairement, on est dans une situation où, généralement, la droite a plutôt bien mené sa barque depuis la fédération. Mais là, la gauche s'est solidifiée. On voit bien que les syndicats, les ouvriers et le Labour Party, le parti travailliste, fonctionnent très bien ensemble. Et ça représente ce niveau d'intégration et comment dirais-je, cette force de frappe est dangereuse pour nous. Il faut qu'on fasse quelque chose, et au lieu d'avoir plein de petits partis de droite, il est temps de s'unir. Ça, c'est, enfin, je veux dire, c'est le classique, c'est l'UMP, c'est le RPR, c'est, vous voyez, c'est pas nouveau dans l'histoire politique. Là, j'ai donné l'exemple anachronique puisqu'il tombe bien après, mais ça arrive, l'histoire du Front populaire avant Menzies en 1936. Donc, il faut unir la droite pour que la droite gagne. C'est un peu le problème des mouvements qui sont forts et qui commencent à s'effriter sur des points qui finalement ne sont pas si différents et qui finissent par perdre le pouvoir, que ce soit à gauche ou à droite. Et donc Menzies crée le Parti libéral australien. Le Parti libéral australien que l'on connaît, Australian Liberal Party, le père fondateur, c'est Menzies. Et il le fait de plusieurs façons. Il y a le côté je parle aux Australiens, et donc je m'impose comme grande figure de la droite, et donc si je suis cette grande figure, il est dans l'intérêt de tout le monde de se tenir derrière moi, puisque le seul moyen d'arriver au pouvoir, c'est moi. Il le fait aussi via un livre qui s'appelle « The Forgotten People », les gens oubliés. Et alors ça, c'est un coup de génie, c'est un livre de 42, donc le fait de ne plus être aux commandes lui a permis d'écrire, et ce livre, c'est encore une des grandes références pour les libéraux aujourd'hui en Australie. Et en fait, l'idée principale du livre, pour faire vite, c'est que, ok, il y a les travailleurs, ok, il y a les syndicalistes, il y a même les communistes, très bien d'un côté, et puis de l'autre côté, il y a l'élite. Mais en fait, moi, ce que je veux représenter, c'est la grande majorité silencieuse, quoi. Encore ce mythe des gens pas tout à fait représentés, pas tout à fait occupés. Qu'est-ce qu'ils veulent? Bon, bah, ils veulent un toit, ils veulent un emploi, et puis ils veulent de la stabilité. C'est très régolien aussi, hein, cette idée. Vous savez, le speech de la ménagère, qu'est-ce qu'elle veut la ménagère? Elle veut l'ordre et le progrès. Bon, bah, c'est un peu ça. Mais 15-20 ans avant. Et donc, pour faire ça, vous avez l'appui du public, mais il vous faut aussi les partis. Il les convoque, enfin, il les invite plutôt qu'une convocation, en disant, voilà, j'ai un projet, ce serait de fonder un parti qui, grosso modo, réunit tous les gens qui n'aiment pas la gauche. Plutôt que de s'unir sur un programme où on va se diviser, mettons-nous d'accord sur le dénominateur commun. Est-ce que vous êtes du centre, de gauche ou plutôt de droite? Si vous êtes plutôt de droite, je vous invite à rejoindre ce grand parti où on va faire travailler les gens ensemble. Et ça, c'est le succès de la future machine de guerre du Parti libéral australien qui va permettre à Menzies de devenir le Premier ministre qui sera le Premier ministre le plus longtemps dans l'histoire australienne à ce jour. À ce jour, c'est quand même assez impressionnant. Et cette machine de guerre, elle a fonctionné sous John Howard également, premier ministre de droite, dont on parlera probablement parce qu'il est très important, et qui est le second premier ministre en termes de longévité. Donc on voit bien que ce parti donne de la stabilité et donne, comment dirais-je, une longévité aux premiers ministres qui sont ces chefs de parti-là. C'est important de le dire, Menzies, il a très bien compris que le grand problème de la droite australienne, c'est ses divisions. Un peu comme, c'est l'équivalent de la gauche, des gauches en France. Ils sont très souvent divisés, beaucoup plus souvent qu'elles ne le sont unies. Alors, on a vu le Front populaire récemment qui a explosé. La dernière fois qu'il y a eu une vraie union des gauches, c'était quoi, la gauche plurielle, et ça n'a pas vraiment gagné. Tout ça pour dire que aujourd'hui le problème du Parti libéral, et ça c'est je pense très important pour les auditeurs qui sont en Australie et qui nous écoutent et qui voient la déconfiture de la droite australienne qui s'éclate complètement, c'est qu'elle est en train de revenir à une situation pré-fédération, voire années 10, années 20, où elle est très divisée, où les petits partis sont en train de mettre le chaos en ne faisant pas avancer le mouvement et plutôt en pensant à ce qu'eux peuvent en retirer. Menzies met ça à ça, progressivement, mais il y arrive en disant, voilà, on va établir des équilibres où il y aura le Parti libéral qui travaillera avec d'autres partis de droite, mais on se met tous d'accord que c'est le grand parti, qu'on se met tous derrière lui et qu'on fera nos équilibrages en interne, on ne va pas faire notre lessive au grand jour, et qu'on accordera les postes en fonction des équilibres dans les circonscriptions et des équilibres de vote. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il fait travailler la droite tout entière. Et c'est ça la clé de son succès.
Ok, alors je reviens sur ce fameux livre de Forgotten People et le fait que ce thème, en fait, est toujours activé. Enfin, je pense en fait à Scott Morrison qui a fait campagne précisément sur la fameuse majorité silencieuse et une fois ça a marché et la fois suivante, non. Alors donc, vous le disiez, ce rassemblement de la droite, ce regain de popularité à travers des émissions, des adresses à la radio, à la population, ça permet à Robert Menzies de revenir au pouvoir en 1949. Mais ça n'est pas dû uniquement, on va dire, à une refondation, un programme qui emporte les foules, etc. 1949, c'est aussi le vrai début de la guerre froide. Et en fait, ce qui va lui permettre de faire basculer la balance électorale dans son camp, c'est le fait que lui, il va faire campagne vraiment en agitant la peur du péril communiste, qui est une vraie peur à l'époque. Hein. Le truc, c'est que, enfin, moi, étant français, j'ai conscience que, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, les communistes représentent une vraie force politique un peu partout en Europe et notamment en France. Ils sont auréolés de la gloire de la résistance à laquelle ils ont tous activement participé. Mais le communisme en Australie, est-ce que ça existe et qu'est-ce que ça donne à l'époque?
C'est une très bonne question. Vous avez raison de rappeler que le communisme est une force très importante à la sortie, au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Elle est importante en Grande-Bretagne, en France, dans pas mal de démocraties libérales. Je crois que c'est plus de 25% aux élections qui sont organisées après. Il ne faudra pas me citer là-dessus, mais c'est important. Ils font partie du gouvernement provisoire de la République française entre 1944 et 1946. C'est une force politique vive, beaucoup moins en Australie. Beaucoup moins en Australie pour des raisons attenantes au pouvoir, à la force du parti travailliste. Le parti de gauche, le Labour Party, est très bien structuré. Il sert les intérêts des ouvriers et finalement, il n'y a pas nécessairement besoin de se radicaliser. D'autant plus que, vous savez, le parti anti-immigration, généralement en Australie à cette époque, c'est plus la gauche que la droite, parce que la gauche veut qu'il y ait beaucoup plus de demandes pour les employés que d'offres pour faire monter les salaires. Et la droite veut inonder le marché de migrants pour faire baisser les salaires. Pas du tout le même schéma qu'en France. Et donc, à l'époque, dans les années 20, 30, 40, 50, vous avez un parti communiste australien, on va y revenir, hein, mais il est aussi important que son grand frère britannique, par exemple, ou que dans d'autres colonies ou dominions britanniques. Donc, si vous voulez, là, on est à un moment structurant où, en réalité, les États-Unis ne sont plus les seuls à avoir la bombe atomique en 1949. Les tests soviétiques ont été réalisés. Il y a une peur qui s'installe parce que peu à peu, le Iron Curtain, le rideau de fer dont a parlé Winston Churchill, s'abat sur l'Europe. Et ça fait peur. Et ça fait peur parce que, en France, on a grandi avec les États-Unis, la Normandie libérée en 1944. Les personnes qui libèrent l'Europe sont les Soviétiques. Hein. C'est les premiers à Berlin. C'est une vague extrêmement puissante. C'est pour ça que les États-Unis utilisent l'arme nucléaire au Japon pour essayer de les impressionner et pour au moins gagner sur un front et mettre fin à la guerre du Pacifique, sinon Joseph Staline se sent mêlé également. Et donc, les communistes sont en train de s'étendre. On le voit bien, il y a des tensions qui donneront lieu très prochainement l'année d'après, que Menzies arrive au pouvoir en 49, enfin revient au pouvoir en 49, vous avez le début de la guerre de Corée. Donc, lui, il fait campagne sur l'anticommunisme. Et en fait, il explique que oui, le parti travailliste, donc ce qu'on appellerait les socialistes chez nous, en fait, ce sont des proto-communistes, ils sont très dangereux, et puis on va se retrouver sous la coupe de Moscou. C'est absolument n'importe quoi, c'est pour faire peur aux gens, mais ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne au point. Il essaye, enfin, non, il essaie pas, il légifère pour que le parti communiste soit interdit. Et donc, il est au gouvernement, il est Premier ministre, il a de toute façon la majorité, il y a une loi qui est votée pour interdire le Parti communiste australien. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais enfin, le but, c'est de dire, vous voyez, on est super actif, on va être sous la protection des États-Unis, le traité ANZUS arrive peu d'années après, et surtout, on va éviter cette contagion communiste. C'est le macartisme un peu avant l'heure, hein, si vous voulez, dans le contexte australien. Le Parti communiste, fort de son droit, va à la Cour suprême australienne et gagne. Et la Cour suprême, 6 juges sur 7, explique qu'en fait, la loi qu'a promulguée le gouvernement, elle n'est pas légale, en fait, vis-à-vis de la Constitution. Alors ça, c'est hyper intéressant, parce que Menzies, c'est un excellent avocat, et ça a été un ministre de la Justice, et il se sait retoquer. Je pense qu'il le savait, je pense comme un bon avocat, il a joué sa carte. Si ça fonctionne et que ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, c'est pas grave. Et donc, ça ne passe pas. Et donc, le parti ne peut pas être banni parce que ça va contre la Constitution. Vous savez ce qu'il fait? Il organise un référendum pour changer la Constitution. Et demander aux Australiens, OK, j'ai été rebouté par la Cour suprême, mais un des moyens d'y arriver ensemble, c'est que vous me donniez un bon pouvoir pour changer la Constitution. Et enfin, officiellement bannir le Parti communiste. Bon, en fait, les Australiens, même s'ils sont assez anticommunistes, un, ils voient que le Parti communiste n'est pas une réelle menace pour l'Australie, et deux, ils ne sont pas prêts à ce qu'un gouvernement légifère sur les idées. Ça paraît assez antidémocratique. Et donc, le référendum et d'essais, une très courte avance du non, hein. Je crois qu'on est à 50% et demi, enfin, c'était quand même assez divisé. Mais vous avez des gens de droite qui ont voté non parce qu'ils pensaient que, en fait, ça limiterait la liberté en Australie et que c'était contre leurs valeurs. Pareillement, vous avez quelques personnes de gauche qui ont voté également parce qu'elles se disaient, s'il n'y a plus de parti communiste, c'est très bien, parce que du coup, ça, c'est un parti socialiste ou un parti Labour encore plus grand. Donc, c'est une période assez bizarre de l'histoire australienne où on voit des communistes partout, on voit des espions partout, on renvoie des gens de l'Union soviétique, il y a des désections. Et effectivement, pendant ces années-là, la première décennie du mandat Menzies, donc de 49 à 59, c'est « je vous protège du communisme, circuler, il n'y a rien à voir », et surtout le parapluie nucléaire et militaire des États-Unis.
Nous allons en rester là pour aujourd'hui. Nous publierons d'ici quelques jours la quatrième et avant-dernière partie de cet épisode consacré à Robert Menzies, qui, je le rappelle encore une fois, est le premier ministre australien qui a le plus longtemps exercé cette fonction dans l'histoire. On s'intéressera dans cette quatrième partie à ses dernières années au pouvoir, qu'il va finir par quitter de son propre gré en 1966. À très bientôt et merci pour votre fidélité.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Notre invitée aujourd'hui, c'est Emma Rolando, une Française originaire du sud de la France qui est venue en Australie il y a 15 ans et qui aujourd'hui a fondé une chorale française. Bonjour Emma.
Bonjour Marianne.
Comment ça s'est passé, la création de cette chorale?
Alors en fait, ça fait à peu près un an que la chorale est créée. Nous avions une chef de chœur, Sylvie Parment, qui a créé l'entreprise en janvier de l'année dernière. J'ai rejoint la chorale en tant que participante et je me suis impliquée dans l'organisation au fur et à mesure des mois. Et Sylvie est malheureusement rentrée en France définitivement le mois dernier. Et donc, ma collègue Nez Hardy et moi-même avons décidé de reprendre l'entreprise.
Et vous savez d'où était née cette envie de créer cette chorale?
Il y a eu beaucoup de demandes, je pense, ces dernières années. Les participantes avaient émis le souhait, justement, de pouvoir se rencontrer et de chanter ensemble. Le problème, c'était qu'il n'y avait pas de chef de chœur. Il n'y avait personne qui pouvait, justement, coacher tout ça. Et donc, Sylvie Parment était impliquée dans la sphère musicale, on va dire, de Melbourne, dans le sens où elle faisait des cours de musique dans les écoles, je crois. Elle a été mise en contact avec une des participantes. Et elle a décidé, donc, de créer cette chorale. Donc c'était le but, était vraiment de rassembler la communauté française et dans le but de pouvoir chanter, s'amuser, se retrouver en français.
Et ça a fonctionné, l'engouement a été immédiat?
Oui, tout à fait. Alors, je pense qu'on était environ 17 quand on a commencé, donc beaucoup d'intérêt. Après, c'est sûr qu'au fur et à mesure de l'année, la communauté française, beaucoup de participantes ont une tendance à rentrer un peu en France, en vacances, etc. Donc, on a eu un trimestre où on avait peu de participantes, malheureusement, mais vers la fin de l'année, beaucoup sont revenus et on a pu faire notre première représentation à l'école de Brunswick Primary. Et on était environ, oui, je pense qu'on était environ une quinzaine.
Vous parlez de participantes, il n'y a pas d'hommes?
Pas pour l'instant, on aimerait bien qu'il y ait des hommes qui nous rejoignent, mais on est tout à fait ouvert à avoir des hommes. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'était que des femmes.
Et alors, comment ça se passe? Est-ce que vous vous retrouvez toutes les semaines, tous les mois?
Tout à fait. Alors, donc, on se retrouve toutes les semaines. Nous avons deux groupes séparés. Les sessions sont des soirs différents dans des quartiers différents de Melbourne, mais nous chantons les mêmes chansons. Donc, nous avons un groupe qui est à Prahran, donc c'est le plus grand groupe. On se retrouve les jeudis soirs entre 19h et 20h30. Et nous avons un autre groupe le lundi soir à Brunswick, qui est pareil, même heure. Et puis, eh bien, on s'échauffe, on se retrouve, on papote un petit peu, on s'échauffe, et ensuite on chante notre répertoire.
Et les auditeurs qui nous écoutent et qui seraient intéressés par vous rejoindre, on peut intégrer la chorale en cours d'année comme ça?
Absolument, absolument. Donc en fait, on accepte tout le monde. Il n'y a pas besoin de savoir chanter forcément. Il faut juste être un petit peu à l'aise avec le français parce qu'on parle toutes plus ou moins français pendant nos sessions. Mais si vous n'avez jamais chanté, mais que vous avez envie d'essayer, ça vaut vraiment le coup de venir et puis d'essayer, de voir ce qu'on peut faire. On avait plusieurs de nos participantes qui n'avaient vraiment jamais chanté et à la fin de l'année, on s'est retrouvés à toutes chanter ensemble des chansons super et elles étaient vraiment impressionnées.
Donc, on peut être australien, avoir des notions de français, australien-australienne, avoir des notions de français et vous rejoindre. Je voulais vous
Absolument.
demander, vous avez à plusieurs reprises évoqué votre répertoire. C'est quoi
Oui.
votre répertoire, votre style musical?
Alors notre style, on chante des chansons françaises. On a chanté à cette représentation Battez-vous du groupe Brigitte. On a chanté Les Champs-Élysées. On a chanté également Ebam de Mantissa. On a aussi des petites comptines aussi qu'on utilise en guise d'échauffement aussi qu'on a chanté comme Vent frais, Vent du matin. Voilà, donc c'est notre petit répertoire et on a plein de projets pour l'année prochaine. On est aussi ouverte à toutes les recommandations, tous les souhaits de nos participantes. On a un groupe où tout le monde partage justement leurs souhaits, les chansons qu'elles aiment et que tout le monde aime. Et puis on vote un petit peu sur les chansons qu'on aimerait bien chanter.
Vous disiez chanter devant un public. J'imagine que quand vous vous retrouvez 2 fois par semaine, vous chantez entre vous. Le public ne vient pas voir vos
Non.
entraînements. Mais l'idée, c'est donc ensuite de se reproduire comme vous l'avez fait à Brunswick récemment.
Tout à fait, oui. Donc nous avons déjà plusieurs représentations qui font partie de la communauté française. En fait, on est déjà en pourparlers avec l'organisateur de la fête de la musique. On parle aussi, on est en contact avec l'Alliance française pour le Christmas Market l'année prochaine, éventuellement peut-être Bastille Day. Donc on est en contact avec ces organisateurs et on espère pouvoir faire partie de ces événements à partir de l'année prochaine, bien sûr, oui.
Et donc le mot de la fin, si on veut entrer en contact avec vous, on fait comment?
Pour rentrer en contact avec nous, nous avons une page Facebook qui s'appelle Melbourne French Choir. Donc, faites une recherche sur Facebook et une fois que vous nous aurez trouvé, vous pouvez rentrer en contact avec nous et nous envoyer un message. On vous répondra et on vous ajoutera à notre petit groupe avec plaisir.
Là, c'est les vacances scolaires. J'imagine que vous vous arrêtez quelques semaines. Quand est-ce que vous reprenez?
Oui, nous reprenons le 29 janvier au début du premier trimestre.
Merci beaucoup, Emma Rolando.
Je vous en prie.
Donnez votre opinion sur les sujets qui vous intéressent. Envoyez un SMS au 04 88 79 93 23 ou rejoignez notre page Facebook pour participer à la conversation.
Let's
SBS en français, c'est fini pour aujourd'hui et on se quitte sur ce morceau d'Alan Da Silva avec Idzem Patchwork qui s'appelle Chic Planet. Je vous invite à nous retrouver pour notre prochaine émission à la radio dès demain, dimanche à 13h, et dans l'intervalle, vous pouvez bien sûr consulter notre site internet SBS French ou vous abonner à notre chaîne sur votre plateforme audio préférée où vous pourrez retrouver l'ensemble de nos interviews, reportages et émissions. Merci et très bon après-midi à tous.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.